Bonjour à tous, bienvenue dans le Labomatique, votre émission dédiée à la recherche scientifique sur Radio Campus Rennes. Aujourd'hui, on va parler des arts précieux à Paris au XIIIe siècle et plus particulièrement de l'orfèvrerie sacrée. Alors pour cela, on reçoit cette semaine Cécile Dufour, docteur en histoire de l'art, diplômée de l'Université de Haute-Bretagne de Rennes depuis le 16 décembre 2010. Elle s'intéresse à l'orfèvrerie sacrée du règne de Philippe Auguste aux années 1300. Alors restez avec nous, pas de panique, on va tout vous expliquer et découvrir à quel point les domaines de la recherche sont divers et variés. Cécile Dufour, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chercheur associé au laboratoire Histoire et Critique des Arts à l'Université Rennes 2.
Oui.
Et donc, vous intéressez à une période de l'histoire qui se situe dans les années 1300, c'est ça ?
1180-1300, oui.
Qu'est-ce qui se passe à cette époque en France ?
Alors, entre 1180 et 1300, nous avons deux rois, enfin, principalement deux rois. Nous avons Philippe Auguste et Saint-Louis. Paris était toujours considéré, enfin a toujours été considéré comme une capitale. Mais là, avec ces deux rois, nous avons vraiment l'émergence de Paris en tant que très très grande capitale. Avec Philippe Auguste, justement, nous avons toute la fortification de la ville de Paris. Et avec Saint-Louis, nous avons Paris qui est hissé en rang de, au rang de capitale religieuse, puisque grâce à lui, nous avons l'édification de nombreuses églises et l'instauration de nouveaux ordres religieux au sein de la capitale. Donc pour moi, Philippe Auguste et Saint-Louis sont considérés comme complémentaires pour Paris.
Alors donc on est donc au Moyen-Âge et vous vous intéressez aux arts précieux. Alors oui. De quoi s'agit-il ?
Alors les arts précieux, donc comme son nom l'indique, regroupent des domaines artistiques précieux, notamment les bijoux, tous les objets qui sont produits en or ou dans des métaux précieux. D'où leur dénomination art précieux.
Vous vous intéressez particulièrement à l'orfèvrerie sacrée ?
Alors sacré, l'orfèvrerie sacrée, c'est un petit peu un terme désuet. On parle plus actuellement d'orfèvrerie au service du culte, tout simplement parce que avec Saint-Louis, les commandes se font plus laïques. Il y a une laïcisation de la production et les commanditaires sont plus des religieux. Il y a des commanditaires laïques, notamment des bourgeois et principalement en plus la cour royale. Donc qui interfère en plus dans la production de l'orfèvre.
D'accord, donc orfèvrerie, c'est un peu le travail de matériaux précieux, quoi.
Voilà, oui.
Est-ce qu'au niveau des pierres précieuses, tout ça, ça rentre en compte ou pas du tout ?
Oui, les objets allient à la fois le métal précieux, mais aussi les pierres précieuses. C'est parce qu'il y a toute une réflexion sur la lumière à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et donc, ces matières premières reflètent justement toutes les réflexions qu'il y a sur la lumière qui est considérée comme une essence divine.
D'accord, alors vous vous êtes concentré sur la religion catholique.
Oui.
Et alors pourquoi du coup ?
Parce que donc au départ je souhaitais faire une thèse sur l'orfèvrerie profane et il s'avère que il y a très peu de pièces qui nous sont parvenues, donc je me suis plus centralisée sur l'orfèvrerie au service du culte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au XIIIe siècle, même avant, il n'y a pas cette détermination entre l'objet sacré et l'objet profane. L'orfèvre produisait aussi bien des objets sacrés que des objets profanes.
D'accord. Et alors, je crois aussi que vous vous êtes concentré sur la ville de Paris.
Oui. donc sur le foyer parisien, parce qu'il y a très peu de recherches qui ont été faites à ce niveau-là. Et pour moi, ça fait partie aussi d'un foyer très, très actif au XIIIe siècle.
D'accord, donc en fait, vous cherchez des objets qui ont été conçus à Paris, mais qui ne se trouvent pas forcément actuellement sur Paris.
Voilà, puisque Paris est à considérer comme un foyer artistique à part entière. Ce que j'ai étudié, c'est les objets qui ont été conçus et façonnés à Paris. On verra tout au long du XIIe et du XIIIe siècle que Paris devient un centre d'expansion, notamment avec Saint-Louis. Et du coup, tous les objets peuvent être disséminés un petit peu en Europe, mais aussi dans certains grands pays, comme par exemple la Russie.
D'accord, donc j'imagine qu'il y a des particularités qui vous permettent d'identifier que ces objets viennent de Paris. On en reparlera tout à l'heure. Alors, juste en quelques mots, comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet ?
Déjà par pur hasard, parce que en maîtrise, je cherchais déjà un sujet de DEA. Et en allant visiter certains musées parisiens, je suis tombée donc au musée de Cluny sur l'orfèvrerie de Limoges au XIIe, XIIIe siècle, ce qui m'a beaucoup séduit. Et donc j'en ai parlé à ma directrice de recherche, qui m'a plutôt conseillé de travailler sur un foyer autre que Limoges. Et donc elle m'a conseillé le foyer parisien.
Et donc, vous avez fait des études d'histoire de l'art auparavant, c'est ça ?
Voilà. Donc, dès mon entrée à l'université en 1997, j'ai déjà fait une année en art plastique. Et puis après, je me suis réorientée en histoire des arts, puisque au lycée, je me suis déjà spécialisée sur la production plastique.
Alors, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, vos travaux se décomposent en différents axes de travail.
Donc, ma première phase de travail a été déjà de répertorier tous les objets issus des ateliers parisiens, dont la localisation était certaine. Donc, après, il a fallu prendre des photos, prendre contact avec les conservateurs, les musées diocésains, certaines églises, pour pouvoir prendre des clichés. Pour pouvoir les analyser au niveau des proportions, au niveau du travail du métal, au niveau du travail stylistique. Après, j'ai fait une notice pour chaque objet. Donc ça a été la première phase du travail. La deuxième phase du travail a été l'analyse précise des objets afin de déterminer les caractéristiques de l'orfèvrerie parisienne, donc au XIIIe siècle.
D'accord, alors au niveau de votre inventaire, j'imagine que vous avez dû faire des recherches bibliographiques en amont.
Oui.
Et prendre sûrement contact avec du monde. Alors comment ça se passe du coup ?
Donc dans un premier temps, je me suis beaucoup basée sur le travail de Madame Elisabeth Taburet, qui avait commencé à répertorier des objets. Et donc après, j'ai fait une recherche bibliographique via Internet, via des différents contacts, ne serait-ce qu'avec le diocèse, avec des bibliothèques universitaires, etc. Après, il a fallu donc prendre des rendez-vous pour pouvoir accéder à ses œuvres. Et après, donc, la prise de clichés vient après toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir approcher les objets.
D'accord, donc après, vous les observez, j'imagine, donc vous prenez beaucoup de photos.
Oui.
Est-ce que c'est des objets en général qui sont exposés au public, dans des lieux publics ?
Alors certains, oui. Par exemple, il y en a beaucoup qui sont exposés, notamment au musée du Louvre. Il y en a qui sont exposés dans des trésors d'église. Mais il y en a certains qui font partie de collections privées, donc là, pas d'accès, ou très peu. Et d'autres qui sont conservés dans des trésors, mais souvent pas du tout mis en valeur en tant que production artistique.
Et alors, qu'est-ce que vous observez du coup une fois que vous avez l'objet devant vous ?
Donc déjà, j'observe la taille, les proportions. J'observe le travail du métal, qui varie justement d'une région à une autre, d'une époque à une autre. Et après, j'étudie tout l'aspect stylistique, la présentation de la scène. Enfin, la scène ou du personnage, ou pour le mettre en corrélation avec la fonction même de l'objet.
D'accord. Et alors du coup, à partir de là, vous créez une notice, est-ce que vous me disiez ?
Oui.
Et donc, dans la notice, on trouve quoi exactement ?
Donc, dans la notice, il y a déjà les métaux qui sont employés, les métaux ou les pierres, etc. Il y a la datation, il y a l'origine. de la pièce, il y a le lieu de conservation, la bibliographie, donc c'est-à-dire les livres dans lesquels on cite l'objet. Nous avons l'historique également de l'objet et après donc sa description vraiment physique, purement physique de l'objet.
On s'accorde une petite pause musicale, on s'écoute Acapulco 44 avec le titre Sunshine. De retour dans le Labomatique, nous sommes toujours avec Cécile Dufour, docteur en histoire de l'art. Concernant votre deuxième axe de travail, vous nous parlez un peu de l'orfèvrerie et du métier d'orfèvre, c'est ce à quoi vous vous intéressez.
Alors, dans un premier temps, je me suis focalisée sur les présentations matérielles des objets pour pouvoir faire émerger les caractéristiques de l'orfèvrerie parisienne que j'ai mis en corrélation donc avec tout ce qui se passe au niveau de Paris au XIIIe siècle, mais aussi par rapport au statut des orfèvres, qui est quand même un statut bien particulier, puisqu'au XIIIe siècle, l'orfèvre est considéré comme un métier de luxe. Donc les orfèvres avaient des privilèges, puisque considérés comme métier de luxe, et parce qu'en plus, ils ont commencé à avoir un lien étroit avec la cour royale. Donc par exemple, il était de coutume que chaque corps de métier devait monter le guet, faire le guet pour la protection de Paris. Et du fait de leur statut particulier, les orfèvres en étaient exempts. Pour passer certains ponts parisiens, les différents corps d'artisans devaient payer une taxe à l'entrée et à la sortie du pont. Les orfèvres en étaient également exempts. Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que l'orfèvre a un statut particulier à Paris au XIIIe siècle.
Et alors, est-ce que tout le monde peut devenir orfèvre à cette époque ?
Alors, tout le monde peut devenir orfèvre à condition déjà de présenter un acte de baptême justifiant donc d'une naissance légitime, ne pas avoir une mauvaise réputation et de faire un apprentissage au sein d'un atelier d'orfèvre et de respecter donc les coutumes, les us et coutumes de la corporation.
D'accord, alors je crois que vous avez cherché à un peu connaître les caractéristiques des objets qui étaient donc confectionnés à Paris.
Oui.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles étaient les particularités de ces objets ? Comment est-ce que vous arrivez à savoir s'ils ont été conçus à Paris ou pas ?
Donc au niveau de la production parisienne, il y a deux phases. Il y a de 1180 à 1260 et la période vraiment charnière, c'est l'année 1260 jusqu'au XIIIe siècle où là on commence à avoir des objets beaucoup plus raffinés par rapport à la première période. Un nouveau traitement au niveau du métal qui se fait beaucoup plus fin. Il y a aussi des représentations sacrées qui sont traitées d'une façon profane, notamment le reliquaire du Saint-Sépulcre qui est conservé à Pampelune, qui présente une mise au tombeau, une scène relativement pieuse, qui est justement un petit peu mise dans un contexte profane, ne serait-ce que par la position des différents protagonistes, par l'introduction d'éléments du quotidien dans une scène profane. Il y a également une évolution au niveau des proportions. Par exemple, à partir du 1260, les personnages se font beaucoup plus longs, beaucoup plus élancés, alors que la tête devient beaucoup plus petite. À partir de 1270 à peu près, on voit au niveau des personnages, au niveau de la chevelure, des petites boucles qu'on retrouve dans la sculpture. Donc il y a vraiment un lien étroit entre les différents champs artistique. Ce que j'aimerais aussi un petit peu préciser, c'est que l'orfèvrerie, même si c'est considéré comme des objets cultes ou des objets d'art pour les conservateurs, c'est avant tout une production artisanale. Donc, il subit plusieurs influences.
Alors, est-ce qu'avec ces particularités, justement, vous pouvez réussir à identifier... Enfin, vous arrivez donc à identifier une ville, la ville de Paris, oui. Mais est-ce que vous pouvez même arriver à identifier un orfèvre particulier ?
Donc, les orfèvres ne signaient pas leurs pièces. Donc, pour pouvoir identifier un atelier particulier, c'est très, très compliqué. On peut identifier un foyer de production, mais un atelier précis, c'est relativement peu possible. Il y a qu'un seul exemple, à ma connaissance, c'est la chasse de Sainte-Geneviève, donc qui est une pure production parisienne, qui a été réalisée par Bonnard, puisqu'on a eu une trace écrite. Mais sinon, c'est quasi impossible.
Et alors, est-ce qu'il y a des orfèvres qui sont particulièrement connus, ou pas du tout? Du coup, on connaît des noms d'orfèvres un peu?
Alors, par les livres de la taille, donc les livres de la taille, ce sont des livres d'imposition qui nous sont parvenus. On connaît des orfèvres. On a même leur lieu d'origine, leur provenance, puisque la provenance est accolée au prénom de l'orfèvre. Donc là, on a des noms. On a des noms pour 1292 jusqu'en 1300.
Et du coup, dans les périodes de l'histoire qu'on suivit, est-ce que le travail des orfèvres a radicalement changé ou est-ce que finalement ça n'a fait qu'évoluer légèrement suite à ce qui s'était passé dans les années, au XIIIe siècle ?
Alors pour l'histoire de l'orfèvrerie, je considère que cette période est une période transitoire parce que on a à la fois sur l'abandon des modèles romans. Et on introduit des concepts gothiques. Et donc pour moi, cette période-là, 1180-1300, c'est une période transitoire. Et à partir de 1300, on arrive donc à l'orfèvrerie du XIVe siècle, qui est déjà un peu plus travaillée au sein des recherches.
Alors j'imagine que vos travaux intéressent du monde un peu, mais
oui.
Qui ?
Alors, il intéresse donc les historiens d'art, évidemment, les conservateurs. Et donc, je publie des articles sur le site Nartex et j'ai créé mon site internet afin de faire connaître justement ces recherches au un plus grand nombre, donc un grand public.
Donc, du coup, vous souhaiteriez un peu sensibiliser le grand public à ce que vous faites, j'imagine ?
Voilà, puisque je souhaiterais quand même, enfin, dans la mesure du possible, que cette production, ce patrimoine religieux soit mis en valeur. Donc, connu d'un plus grand nombre et non pas réservé uniquement à une élite.
Donc, en faisant ce site internet, finalement, c'était un peu le but aussi ou...
Oui.
Alors, pourquoi ça vous tient particulièrement à cœur, justement ?
Tout simplement parce que je souhaiterais démocratiser un petit peu tout l'histoire des arts et qu'elle soit accessible à un plus large public, au lieu d'être réservée donc, à une élite, tout simplement.
D'accord, vous pensez qu'on s'y intéresse pas assez ?
On s'y intéresse pas assez, malheureusement.
Est-ce que c'est le côté religieux, vous pensez, qui joue beaucoup ? Ou est-ce que c'est tout simplement le côté les arts, ça intéresse pas forcément beaucoup de monde ?
Alors, je pense que déjà, ce qui freine un petit peu, c'est que ça soit lié à la religion. Et parce que c'est un sujet pointu qui, comme il a très peu été travaillé, il est du fait d'un manque de mise en valeur, le public s'en intéresse très peu. Et d'ailleurs, dans cette volonté de mettre en valeur ce patrimoine, il y a Monsieur Frédéric Mitterrand qui a fait un discours par rapport à cette mise en valeur de ce patrimoine religieux. Donc il y a à peu près un mois.
D'accord, alors je crois que vous êtes professeur des écoles.
Oui.
Et justement, j'aimerais savoir, est-ce que vous mettez des projets en place éventuellement avec vos élèves pour valoriser justement un peu vos recherches ?
Alors je mets évidemment en place des projets au sein de ma classe pour valoriser, donc pas spécialement mes travaux de recherche, mais pour valoriser un petit peu l'histoire des arts qui va de pair avec l'histoire qu'on peut enseigner classiquement à l'école. Et donc pour parler de certains, parce que je suis actuellement en CM1 et on parle du Moyen-Âge, donc mes objets, je n'hésite pas en les choisissant, à leur montrer pour leur dire que voilà, c'est aussi une production humaine. Avant tout, c'est une production humaine. Donc, on visite assez souvent des musées parisiens pour justement avoir une certaine ouverture d'esprit, pour pouvoir éduquer aussi l'œil, tout simplement parce que les bâtiments, l'environnement où on se trouve, c'est aussi le fruit d'une évolution de la ville. Donc, ça fait partie aussi des arts contemporains, selon moi.
Et alors, est-ce que vous avez un projet en particulier qui vous tient à cœur ou que vous souhaiteriez mettre en place ?
Alors, donc déjà, mon plus grand projet, c'est la publication de ma thèse, évidemment. Et le second projet, donc pour lier à la fois l'histoire des arts et mon domaine professionnel, c'est de publier des manuels pédagogiques sur justement l'enseignement d'histoire des arts. Il y a très peu de manuels par rapport à cela, donc du coup, c'est un de mes objectifs.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci.
Vous pouvez retrouver l'adresse du site internet de Cécile Dufour ainsi que son site de publication sur le site de Radio Campus Rennes, sur la page du Labomatique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Labomatique. Bonne semaine à tous.